voafrique.com.
I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette édition de L'Amérique et vous, Eric Manirakiza en votre compagnie, Lionel Runanila Gahima assure la mise en onde. Ce soir, nous revisitons la pensée post-coloniale avec trois invités, Hervé Chumkan, professeur à Southern Methodist University au Texas, Dr. Anjan Sundaram s'intéresse au journalisme post-colonial et Jean-Pierre Carigueillet, professeur à Dickinson College en Pennsylvanie. Dans un instant, nous entrons dans le vif du sujet. Vous êtes dans L'Amérique et vous, notre émission porte sur l'Afrique multiple. En genre, vous parlez du journalisme post-colonial. Hervé, vous êtes professeur des études post-coloniales et Jean-Pierre, d'une littérature post-coloniale. J'aimerais entendre chacun de vous ce que vous entendez par le poste dans vos démarches par rapport à la question coloniale. Hervé, je commence par vous.
Assez brièvement, par post-colonial, j'entends simplement, à la suite de beaucoup d'autres chercheurs, l'étude des relations au fond qui se tissent entre les anciennes puissances coloniales et leurs anciennes possessions. Pour ainsi s'exprimer. Dans post, généralement, on parle de post, le préfixe, on se dit c'est après la colonisation, mais pas nécessairement. C'est tout ce qui gravite autour de la colonisation, avant la colonisation, pendant la colonisation, et effectivement, après, on va dire après la colonisation.
Oui, je peux parler de mon expérience en tant que journaliste. Et surtout, je travaille, si vous voulez, dans des zones ou à propos des situations qui ne sont pas très couvertes dans le journalisme, ce qu'on peut dire mainstream, en Europe, aux États-Unis. Et je travaille souvent dans des zones, c'est un peu drôle, comme par le journalisme postcolonial. Je voudrais dire aussi le fait que souvent en Afrique, ou en Asie aussi parfois, pour que la nouvelle arrive, une nouvelle africaine arrive aux autres Africains, souvent il faut que la nouvelle passe par l'autre. Londres ou New York, avant d'arriver aux autres Africains. C'est comme s'il n'y a pas un lien direct entre les Africains à propos des nouvelles, et parfois en Asie aussi, entre les gens de l'Asie. Et le monde du média et le monde des nouvelles internationales est toujours caractérisé par une structure coloniale. Ça veut dire qu'on attend toujours qu'il y a des correspondants envoyés des centres comme New York ou Londres, envoyés aux périphéries, comme les anciennes colonies, et qui sont là, qui arrivent là pour gérer un peu le monde de la nouvelle, qui s'approprie aussi du travail des journalistes locaux qui sont sur le terrain, qui travaillent, qui bossent, qui sortent la nouvelle. Et il y a beaucoup de similarités comment la nouvelle internationale est recueillie et diffusée aujourd'hui et le monde colonial, si vous voulez.
Jean-Pierre.
Pour moi, ce que j'entends par des études postcoloniales, où je parlerai plutôt de mon expérience, c'est-à-dire je suis entré en contact avec les études postcoloniales à partir de mes études de théologie, de philosophie et littérature, et beaucoup plus précisément théologie africaine, philosophie africaine, et littérature africaine ou littérature francophone et africaine, à partir des questions que ces disciplines ou des intellectuels africains se posaient dans leur rapport avec la colonie et aussi une façon, en se posant certainement une des questions de comment décoloniser la pensée africaine ou les disciplines africaines. Et donc ce que j'ai suivi, c'était surtout les questions que les intellectuels africains se posaient au niveau des trois disciplines. Donc voilà ce que je pourrais dire.
Docteur Anjan Sundaram, vous avez publié un article sur le Foreign Policy dans lequel vous le défendez.
Pour la question de Rousseff Kavelina, oui, j'ai fait un article sur lui. Moi, je ne dirais pas que je le défends entièrement, mais oui, je trouve que c'est assez objectif pour moi, c'est assez clair que Paul Rousseff Kavelina, malheureusement, se trouve prisonnière dans une dictature. Il est prisonnière, il va passer un procès dans le système juridique qui s'est montré biaisé dans plusieurs autres cas politiques, notamment le cas de Kizito Mihigo, qui s'est trouvé mort dans une cellule policière au Rwanda. Il a été arrêté après qu'il a critiqué Paul Kagame. Il a été présenté avec des policiers à la République et il s'est auto-incriminé. C'était un théâtre, un peu une farce. Et je crains que Paul Rousseff-Kavelina, justement, qui est une critique, qui fait beaucoup de critiques du président Kagame, il peut aussi finir mort, comme Kizito Mihigo, ou il peut bien être emprisonné pendant longtemps, comme d'autres critiques du président Kagame. Et c'est un crainte. Et c'est ça le but de l'article, c'est basé sur les faits des autres critiques du peuple Kagame, qui ont subi des grands réprimes pour ce qu'ils ont dit.
Jean-Pierre et Hervé, vous avez signé un document avec une vingtaine de professeurs dans lequel vous défendez son arrestation au Rwanda. Hervé, je voudrais d'abord vous entendre.
Écoutez, Eric, je comprends tout ce qui se joue, mais je vais être ferme là-dessus et très clair. Pour moi qui enseigne ce que j'appelle la faillite de l'humanité au Rwanda depuis une dizaine d'années maintenant, et chaque fois que j'enseigne ce cours, j'ai l'impression de le faire pour la première fois. Pour dire que quoi ? Droit au but, connaissant ce qui s'est passé au Rwanda jusqu'en 1994, d'où ça venait, comment ça a été savamment orchestré, exécuté, j'ai quelques difficultés. D'ailleurs, je peux me permettre de vous dire, je viens d'un pays, le Cameroun, où le spectre du Rwanda est en train de tourner. Et donc, je ne saurais pas rester insensible à qui que ce soit qui veulent ou qui pensent rallumer les feux de la soi-disant guerre inter-tribale. Je viens d'un pays où les situations sont en train de dégénérer pratiquement, surtout à cause des mêmes problèmes. Et on a l'impression, et ça c'est ma plus grande frustration quand j'écoute ça, on a l'impression que le Rwanda en 1994, c'est comme si rien ne s'était passé. Pourtant, on ne peut pas fonctionner comme si Auschwitz ne s'était pas passé en Occident. Je ne comprends pas pourquoi, quand il s'agit de l'Afrique, il faut prendre des repères qu'on fixe, et puis on fait comme si rien ne s'était passé avant. Donc, Eric, ma position est très claire, c'est que quiconque pense ou entreprend, d'ailleurs, entreprend de rejouer cette atrocité-là, ça ne devrait pas être autorisé non seulement au Rwanda, mais d'ailleurs dans le reste de l'Afrique. On parlait de la Centrafrique tout à l'heure, j'ai parlé de mon propre pays, le Cameroun. Ce sont des actions qui mènent à la destruction totale. Et ça me pose problème parce qu'au fond, la légèreté avec laquelle on approche généralement cette situation me donne l'impression que cette vie africaine-là ne valent absolument rien. Donc on peut y aller comme on veut. On a beau défendre ici ou ça. Mais au fond, on semble bien que ce sont des vies qui sont en jeu. Et c'est la raison pour laquelle, honnêtement, quand je signe la pétition avec d'autres collègues, c'est que je souhaiterais que 1994 ne se reproduise pas, nulle part en Afrique, même pas au Rwanda.
Jean-Pierre, très brièvement.
Oui, très brièvement. J'aimerais dire, parce que je crois que quand vous nous avez invités ici, c'était clair qu'il s'agissait par exemple de discuter des enjeux de la post-colonie. Et donc, et j'ai vu qu'un Diane, et il nous ramène tout le temps au Rwanda, Kagame, etc. À ma connaissance, et je ne vais pas parler de Kagame ici, à ma connaissance, c'est pas un... Non, je vais.
Oui.
Oui, je vais aller, oui. Ce que j'aimerais dire, par exemple, ces descriptions du Rwanda, la dictature, etc., et je constate que c'est une reprise de ce qu'on dit en général sur l'Afrique. Mais loin de là, et encore avec tous les droits qu'on peut dire ce qui est positif et ce qui est négatif. Et quand je parle de la pensée post-coloniale, etc., donc le fait même de se dire, si je ne peux pas, en se disant, je ne peux pas écrire sur les États-Unis, et parce que je ne serai pas publié, mais je peux écrire sur l'Afrique, mais dans cette perspective, et là j'aurai la chance d'avoir une certaine couverture. Nous nous inscrivons dans cette pensée coloniale, malheureusement, etc., malheureusement. Et je dirais même pas les États-Unis, c'est que qu'au Rwanda ou dans un autre pays africain, est-ce qu'il y a des choses qui sont négatives? Certainement, il y en a et il faut en parler, ça existe, etc. Autant que, par exemple, en Inde, il y a des choses extrêmement positives. En même temps, il y a aussi des choses sur les droits de l'homme, sur la question des intouchables, sur la situation des musulmans, sur la situation des immigrés africains. Donc ça existe un peu partout. Alors, revenant dans sur le cas de Paul Rousseff-Sabagina, évidemment, au moment où il décide de prendre des armes contre son pays ou même contre un pays, etc. Donc, moi, je trouve que c'est justice pour des victimes de sa rébellion qu'il puisse y avoir ce procès et surtout au Rwanda. Et je sais que le cas de Paul Rousseff-Sabagina dérange certaines personnes ou certains milieux à cause de... Bon, c'est une vedette célèbre, etc. Et moi, je dirais, s'il en est ainsi, pourquoi aux États-Unis on a mis R. Kelly, par exemple, en prison? Donc ça, c'est une personne comme tant d'autres. D'ailleurs, Rousseff-Sabagina n'est pas le seul. Je crois qu'il doit avoir une vingtaine de personnes impliqués aussi et dans des rébellions qui sont là dans le même procès avec Paul Rousseff-Sabagina. Donc pour moi, je dis, c'est un événement important en rapport avec la justice pour les victimes de ces rébellions. Et comme a dit aussi Hervé, ici nous parlons d'un pays qu'on n'ignore pas, qui est sorti du génocide il y a quelques années, une vingtaine d'années. Et savoir aussi qu'on peut mettre fin au génocide à tant qu'événement, mais on ne met pas fin immédiatement. Cela ne signifie pas déconstruire une idéologie qui a permis aussi ce génocide.
Docteur Ranjan Sundaram, vous vous réclamez du journalisme post-colonial. En quoi votre travail renvoie au journalisme post-colonial et quel est le rapport qu'il a avec vos écrits sur l'Afrique?
En tant que journaliste, souvent je travaille dans une structure de nouvelles internationales et coloniales, comme je viens d'expliquer. Mais dans mes livres, j'essaie un peu de faire sortir la perspective des journalistes qui travaillent en plus bas échelle du monde de nouvelles, qui sont souvent oubliés dans les narratifs, dans les récits de la nouvelle, du journalisme. Souvent, les livres sont écrits par des grands correspondants, hyper connus, des gens qui sont basés à New York et à Londres, qui ont des grandes émissions. C'est eux qu'on regarde pour savoir l'état du monde. Mais en fait, cette narrative sur la nouvelle, sur le journalisme, ça oublie beaucoup en fait, des journalistes qui sortent les nouvelles, qui travaillent sur terrain, comme des pigistes. Et mon premier livre s'appelle Pigiste, Stringer, qui veut dire pigiste en français. Et ça montre l'expérience et les perspectives d'un pigiste qui essaie de sortir la nouvelle, qui essaie de vendre la nouvelle aux éditeurs internationaux. Mon deuxième livre, ça s'appelle Bad News, ça parle des journalistes rwandais qui ont été réprimés, souvent violemment, par leur gouvernement pour avoir essayé de faire leur boulot. Et dans mon livre, j'essaie de montrer, expliquer le travail très important qu'ils ont fait, mais qui passe oublié. Et je trouve que dans ces deux perspectives du pigiste et aussi des journalistes locaux, dans mes livres, j'avance un peu la perspective et je montre, je donne une importance au travail des journalistes au plus bas échelle qui sont oubliés dans la structure coloniale de la nouvelle internationale.
Est-ce que vous abordez aussi la question de la subjectivité, de l'objectivité? Cette information qui est présentée d'une manière objective mais qui est reçue d'une manière subjective?
En fait, oui. En tant que journaliste, souvent, je suis forcé un peu, c'est le format de la nouvelle internationale, de présenter des papiers comme la nouvelle objective. Et en fait, ce n'est pas le cas. Mais je n'ai pas cette possibilité de montrer la subjectivité dans mes papiers journalistiques. Mais dans mes livres, je suis libre à expliquer ça, à montrer ça, à dévoiler ça. Alors, tous mes livres sont écrits dans la première personne, de ma perspective propre. Et en choisissant cette perspective personnelle, je montre déjà que tout ce que j'écris, tout ce que je raconte, c'est subjectif. Ça part de mon expérience et à peu près tout ce que je connais en choisissant cette forme l'intelligence, c'est une approche postcoloniale.
Est-ce que je peux réagir, Eric, à ça, si vous me permettez?
Très rapidement.
Oui, très rapidement. Bon, ok. Donc, moi, j'ai lu, c'est intéressant, enfin, je ne suis pas journaliste, mais j'ai lu les trois ouvrages. Et je suis désolé de dire que je ne trouve rien. C'est pas ce que je peux définir comme journalisme, mais du moins dans ce qu'on pourrait appeler théorie postcoloniale. Et ça, je regrette. Il y a rien. Par exemple, le livre sur la République démocratique du Congo. Et je trouve que c'est une description de la misère, la pauvreté et même le vol, si vous voulez. Dans le Bad News, si vous voulez, le Rwanda, c'est aussi une description de la dictature, mais à travers évidemment des journalistes en danger. Et quand on va pour le cas du livre sur la République centrafricaine, c'est l'Afrique des tribus qui se déchire, les guerres, des religions, etc. Et du coup, j'ai l'impression de trouver une description, une peinture de l'Afrique, si vous voulez, sauvage, décrite déjà dans les récits de voyage de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et c'est intéressant avec l'usage de la première personne et qu'on trouvait aussi dans les récits de voyage. Donc, pour moi, j'ai eu l'impression que Sundaram était dans la figure de l'écrivain voyageur et même explorateur, si vous voulez. Et lui-même qui se met en scène, d'ailleurs, comme il vient de le dire. Donc, avec les aléas de son voyage, etc., exprimant ses émotions, j'ai l'impression de découvrir un peu l'afro-pessimisme, de découvrir l'exotisme, et ça, je regrette. Et d'ailleurs, tout ce qui est...
Jean-Pierre, c'est son passé qui ne passe pas, qui est toujours imparfait, qu'il décrit.
Et justement, post-colonial studies, c'est de nous sommes dans un niveau de tournant, c'est-à-dire quand on parle de décoloniser les sciences, c'est ça, les sciences sociales, les sciences humaines. Mais ce n'est pas une reprise, n'est-ce pas? Parce que j'ai l'impression de me trouver devant, comment est-ce que je pourrais appeler ça, devant un recyclage des eaux usées. Parce que quand je lis ça, j'ai l'impression de lire un texte du 18e siècle, du 19e siècle. Ça m'est difficile. Je ne parle pas du journalisme, mais de cette idée des post-coloniaux. C'est ça ce qui m'est très difficile à trouver dans ces trois ouvrages.
Merci d'avoir lu mes trois livres, c'est très gentil et tout. Bon, en premier, je trouve que vous disiez qu'il n'y a rien de postcolonial, mais bon, j'ai fait un doctorat sur le journalisme postcolonial. Mon doctorat était sur la base de mes trois livres en question que vous venez de citer. Mon jury était des journalistes africains aussi. Et alors, ils ont jugé que justement, le travail méritait un doctorat du journalisme postcolonial. Alors, cette question, je crois que c'est assez facilement réglé. Pour la question de l'exotisme, je trouve ça, et décolonisation, je trouve ça très intéressant. En fait, je trouve que récemment, au nom de décoloniser le journalisme ou la littérature coloniale sur l'Afrique ou même bien sur l'Asie, on essaie de revendiquer une littérature, une perspective positive, justement parce qu'il y a eu beaucoup de racisme dans le passé. Et j'ai travaillé ça aussi dans mon doctorat sur la question. Mais en fait, je trouve que donner une perspective, une image positive au nom du postcolonialisme, je trouve que c'est justement faux, parce que c'est juste une réaction à la narrative coloniale, et ça tombe dans le même cadre, si vous voulez. C'est une réaction coloniale, ça donne une importance aux perspectives coloniales, et justement, je trouve que c'est la mauvaise piste. Et je trouve qu'il y a en Afrique et en Asie, d'où je viens, je suis indien, il y a la misère, il y a la joie. Et juste parce que les écrivains ou les journalistes coloniaux ont donné une image négative, qui est vraie, c'est raciste, c'est un discours raciste, juste parce qu'ils ont fait ça, je trouve que c'est aussi colonial en fait, ça tombe pas pour moi dans le postcolonialisme. Alors juste parce qu'il y a de la négative, négative, je trouve que ça ne déqualifie pas au moins les œuvres ou bien les œuvres des autres d'un journalisme ou littérature postcoloniale.
Professeur Hervé, je voudrais vous entendre sur cette discussion. Comment vous l'entendez-vous?
C'est une discussion très intéressante. La première des choses, pour revenir à ce qu'a dit Jean, la première des choses que je voudrais souligner, c'est que ça s'applique aux journalistes, je crois que ça s'applique à toutes les autres disciplines. C'est qu'au fond, en tant qu'individuel ou en tant que corporation, qu'on soit journaliste, qu'on soit historien, qu'on soit professeur, individuel ou corporation, ça ne nous met pas en dehors d'un positionnement idéologique et d'une certaine rigidité intellectuelle. Ce mentant, enfin, on connaît plusieurs exemples de doctorats, mais de doctorats qui sont parfois sérieusement orientés, j'allais dire à la limite même, qui sont dirigés dans une perspective qui correspondrait à certaines attentes. J'en veux par exemple dans le cas de la presse, je ne suis pas journaliste, mais j'ai lu un tout petit peu. Je regarde par exemple le rapport entre la presse parfois et les positionnements politiques, les positionnements idéologiques. Donc la première des choses, c'est que il ne s'agit pas pour moi d'invalider le travail d'un homme, mais simplement de remarquer que c'est à faire un doctorat ou avoir fait un doctorat, ou de parler à partir de sa personne de journaliste, ne prévient pas toute possibilité de rigidité intellectuelle ou en tout cas de positionnement idéologique. Maintenant, sur la question des représentations, c'est une grosse question avec laquelle nous avons des difficultés en théorie postcoloniale. Mais il me semble qu'au fond, je tends plus à être un tout petit peu d'accord avec Jean-Pierre, parce que, et le postcolonial en genre, à mon avis, il ne s'agit pas de passer du négatif au positif, c'est pas ça. C'est d'étudier les mécanismes, mais aussi de ne pas perdre de vue un certain contexte. Parce que tout part des contextes. En revanche, tout se passe comme si, en général, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, c'est ce que certains appelaient le triple D, death, disease, despair. Il ne s'agit pas non plus de peindre une Afrique qui serait rayonnante, qui n'a pas de problème, ce qui est réaliste, mais simplement de voir la progression, ce tournant-là. Quelles sont les avancées, quels sont les reculs, et comment est-ce que tout ça s'articule dans un contexte global, parce que, autrement dit, on revient à une Afrique qui serait l'Afrique de Tintin au Congo, où on est bloqué sur des stéréotypes et ce type de discours. Donc, a priori, voilà comment moi je me positionnerais dans cette question-là.
Je vais dire deux mots à propos de ce que Hervé vient de dire, et Jean-Pierre aussi. Bien sûr, je comprends que même un Africain ou un Asiatique peut avoir des comportements de blanc. Bien sûr, ça existe. Ça ne s'agit pas justement de couleur de peau ou de race. Je comprends très bien ça et on n'a pas besoin de m'expliquer la théorie. Je comprends très bien que tout le monde, justement, pour accéder au pouvoir, peut prendre des positionnements qui donnent un certain accès. Mais je trouve qu'on parle, il y a des sous-entendus, on parle beaucoup, on tourne autour de peau un peu et on répond pas à mes questions, je trouve, directement. Et à mes critiques, on parle plutôt des théories qui sont un peu, pour moi, un peu floues. Moi, je suis dans la pratique. J'essaie de produire des textes et j'essaie de produire du journalisme et des livres à propos de ce que je fais, ce que je pense. Et je fais de mon meilleur.
Professeur Hervé, vos ouvrages s'inscrivent essentiellement dans la pensée postcoloniale. Vous parlez de homo expendibilis et vous reprenez la notion de précarité chez Judith Butler. Comment cela s'articule avec les réalités africaines et la pensée postcoloniale?
Comment est-ce que ça s'articule avec les réalités africaines et la pensée postcoloniale? Il s'agit simplement de regarder à partir d'un concept opératoire. J'ai parlé d'homo expendibilis. En fait, ça m'est inspiré de Homo sapere chez Agamben, philosophe italien. Mais c'est de regarder les manières dont, finalement, il y a une certaine production d'intersécurité, si vous voulez, en contexte africain. Autrement dit, le rapport qui existe entre la marginalité et les questions d'insécurité sont très souvent bottés en touche. Et de ce point de vue-là, c'est ma modeste contribution à moi, à un positionnement, justement, pour revenir au débat entre Jean et Jean-Pierre. Ma position, ma contribution dans ce travail, c'est de montrer qu'en fait, ce qui se passe en Afrique, en termes d'hostilité, diffusion de sang, il ne s'agit pas d'une Afrique qui ne serait pas civilisée. Attention, ça c'est le discours contre lequel je m'oppose. Mais précisément, ce que j'essaie de montrer dans cet ouvrage, c'est qu'il s'agit plutôt d'une Afrique qui a produit la société indécente. Donc, l'indécence, en cette société indécente, me semble ici plus opérationnelle que le vieux contexte retravaillé, très racialisé, de société non civilisée. Pour moi, en fait, il ne s'agit pas de dire que l'Afrique est, je sais pas, paradisiaque tout de suite, mais il s'agit plutôt d'approcher assez objectivement, si je peux le dire, les problèmes de l'Afrique, sans en nier les difficultés et les faiblesses, mais sans non plus rester fiché dans un discours qui reproduirait simplement des notions liées aux inégalités et aux incapacités forcément ancrées dans la race. Et c'est ça qui est la question.
Nous arrivons au terme de cette édition de La Méritez-vous. Merci de votre participation. Merci
au docteur Anjan Sundaram. Vous vous intéressez au journalisme post-colonial. Merci, Anjan.
Merci, merci, Eric.
Merci à Hervé, professeur des études post-coloniales dans le Texas. Merci.
Merci, Eric. Merci d'avoir eu.
Merci à Jean-Pierre Caligayé, professeur également de littérature post-coloniale. Merci beaucoup pour votre contribution.
Et merci, merci beaucoup, Eric, pour ce débat.
Merci, Jean-Pierre. Merci à Lionel Donadela Gahima qui a assuré la mise en onde. Eric Manila qui a été avec vous. À la prochaine.